Ce matin, j'aimerais vous parler de l'Église missionnelle. Le Seigneur a donné à son Église une mission importante qui dépasse toutes les autres missions, celle d'aller vers les perdus, d'amener des âmes à lui. Je pense à prophète Ézéchiel, ce chapitre 37, où il est là devant une vallée d'ossements desséchés. Lorsque nous regardons nos concitoyens, et bien sûr je parle dans la dimension spirituelle, je veux avoir beaucoup de respect pour mes concitoyens, je ne les considère pas comme des gens qui ressemblent à des eaux desséchées, mais sur le plan spirituel, n'est-ce pas le cas? D'être entouré en permanence de personnes qui sont totalement asséchées sur le plan spirituel, certaines personnes qui n'ont même pas conscience de ce qu'un monde spirituel existe. Pourtant, Ézéchiel, devant cette vision, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchiel? Il a fait ce que Dieu lui a dit. Et Dieu lui a dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise. Ça veut dire, parle de ma part. Je crois que ce que nous disons, et là, je veux vous donner un premier encouragement. Ce que nous disons sur notre pays, notre ville, nos relations, est très important. Nous pouvons être dans le discours toujours défaitiste. « Ah, mais de toute façon, les Français, la religion, ça ne les intéresse pas. Ils sont même anti-religieux. » Et on va développer tous ces discours-là. Et franchement, est-ce que ça va être positif? Il faut que Dieu change notre vision et que nous puissions voir non pas les eaux desséchées, mais les eaux que le Seigneur peut rassembler et faire revivre. Amen. C'est cela que nous devons voir quand nous voyons une âme perdue. Le Seigneur a un message pour nous ce matin. Il nous choisit individuellement pour porter sa bonne nouvelle. Quand je parle de l'Église missionnelle, je fais très attention parce que vous savez, quand on dit l'Église a une mission, c'est très bien. Mais en fait, ça engage l'Église et pas moi, personnellement. Or, je crois que Dieu nous choisit individuellement. Est-ce que je peux, moi, venir parler du Seigneur sur votre lieu de travail? Est-ce que si vous allez voir votre patron, vous lui dites « Ah, j'ai mon pasteur ou un pasteur que je connais veut venir parler de Dieu dans l'entreprise ?» Ça va marcher, ça? Peut-être y a une exception, quelque part. Mais la plupart du temps, vous aurez un refus. Hein. Mais si vous parlez sur votre lieu de travail, qui peut vous en empêcher? Personne. Sauf dans des cas précis, je vous le rappelle quand même, soyons sages, quand vous êtes dans une relation de subordination, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette relation pour amener les âmes à entendre l'Évangile. Mais si vous êtes un collègue de travail qui est au même niveau que vous, vous pouvez échanger avec lui. Et là, il y a aussi des fausses conceptions sur la laïcité, qu'on n'a pas le droit de parler religion, etc. C'est faux. Ça, c'est totalement faux. Au contraire, c'est tout le contraire. La loi dit qu'on est libre de partager ses opinions, qu'elles soient religieuses, politiques, philosophiques, etc. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de contraindre les gens à se convertir. Ça, oui. Mais échanger ce que l'on vit, on a le droit. D'accord? Je peux faire ce rappel au milieu de vous parce que j'entends parfois des frères et sœurs qui me disent « Ah, mais je ne peux pas témoigner sur mon lieu de travail la laïcité. » C'est faux. J'ai travaillé 20 ans dans l'éducation nationale. Pourtant, l'éducation nationale, c'est un sanctuaire où on ne doit pas parler religion. Mais j'ai témoigné très librement pendant ces 20 années. Il n'y a pas une personne dans l'établissement où je travaillais qui ne savait pas que j'étais chrétien. Je n'ai jamais eu aucun souci, parce que je n'ai jamais essayé de convertir des gens. Je n'ai pas parlé aux élèves, bien sûr, parce que là, j'étais dans un lien de subordination. Mais j'ai un peu triché quand même avec les surveillants. J'étais conseiller principal d'éducation, les surveillants, j'avais un lien de subordination, mais ils ont été évangélisés, je peux vous le dire. Mais jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Quand on fait les choses avec sagesse, avec beaucoup d'amour, il n'y a pas de problème. J'irai même plus loin, je vais encourager, il y a des ados, des jeunes au milieu de nous, peut-être des enfants. Dans vos collèges, dans vos lycées, on ne peut pas venir, nous les adultes, témoigner. Mais vous pouvez le faire. Là aussi, dans la relation élève-élève. Vos professeurs ne peuvent pas vous évangéliser, heureusement, parce que vous pourriez avoir d'autres influences. Hein. Mais par contre, entre vous, vous avez tout à fait le droit. OK ? Nous sommes ses disciples, nous avons décidé de le servir, et notre première mission, c'est de propager la bonne nouvelle. J'aimerais vous rappeler que là où vous êtes, votre quartier, votre lieu de travail, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est Dieu. C'est Dieu qui choisit là où nous sommes, parce que nous sommes ses enfants. Nous, on croit qu'on choisit quelque chose. Mais en fait, Dieu a dirigé nos vies, les uns les autres, pour nous placer à des endroits bien précis. Et si on pouvait voir comme Dieu voit, on verrait qu'il a mis les gens là où il fallait, il a dispersé, il a fait attention qu'il y en ait un peu partout, là où il faut. Dieu, il est trop fort. Mais si, là où il vous a mis vous, vous ne remplissez pas votre rôle, alors il y a une difficulté. Quand on parle de l'église missionnelle, on a tendance à penser aux programmes mis en place pour l'évangélisation, les actions sociales, le budget alloué à l'évangélisation. Je me souviens d'un collègue qui répétait toujours « Alors, dans une église, de toute façon, on voit si une église est tournée vers l'évangélisation, s'il y a un budget conséquent pour l'évangélisation. » Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je pense que la première chose qui doit être importante, c'est que chaque chrétien soit investi dans l'évangélisation personnelle. C'est le point de départ. Si l'Église fait venir un grand missionnaire ou fait une campagne et qu'après chacun rentre chez lui et ne parle du Seigneur à personne, vous savez qu'il y a des personnes, je veux stigmatiser personne, je veux essayer de vous encourager ce matin. Il y a des gens, ça fait plusieurs années qu'ils sont sur leur lieu de travail et personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Et moi, je veux vous encourager à dire, peut-être vous êtes timide, peut-être c'est compliqué pour vous, et je peux le comprendre, mais vraiment priez le Seigneur et dire, Seigneur, ça ne peut pas rester comme ça. Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît. Je me souviens du témoignage d'un pasteur qui disait que lorsqu'il s'est converti, alors lui, c'était un évangéliste, donc c'était le gars qui parlait du Seigneur à tout le monde, du coup. Hein. Mais par contre, il s'est aperçu, quand il s'est converti, que dans son bureau, il y avait un chrétien. Et qui lui avait jamais parlé du Seigneur. Et là, il a été vraiment furax après lui. Il a dit, mais tu te rends compte le temps que j'ai perdu? Bon, bref, je ferme la parenthèse. Est-ce que c'est difficile de partager une bonne nouvelle? Dites-moi, est-ce que c'est difficile? Quand vous avez une bonne nouvelle, ça bouillonne pas là pour dire, il faut que j'en parle à quelqu'un là tout de suite là? Non? Ouais, je pense qu'on est tous comme ça. Hein. Ben, nous sommes en possession de la meilleure des bonnes nouvelles qui existent. Nous connaissons quelqu'un qui est ressuscité des morts, qui a vaincu la mort, qui nous a libérés de notre péché, qui a payé à notre place la dette que nous avions envers Dieu. Quelqu'un qui nous rend libres, quelqu'un qui nous rend heureux, quelles que soient les circonstances, quelqu'un qui répond à tous nos besoins. Oh, on ne va pas parler de lui? C'est de la folie. C'est de la folie. Imaginez que vous connaissiez quelqu'un qui a un remède contre le cancer et vous avez un membre de votre famille qui a le cancer. Et vous ne lui dites pas que vous connaissez quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui. Ce serait fou quand même. Mais nous avons des gens qui sont dans le péché, qui sont perdus. Et nous avons le devoir de leur parler de celui qui peut les sauver. Amen. Parfois, vous pourrez dire, le contexte ne s'y prête pas, mais pasteur, si vous voyez un peu les difficultés qu'on a dans l'Église, si vous voyez les difficultés dans ma vie personnelle, vous savez, témoigner, c'est pas le moment, là, en ce moment, j'ai d'autres priorités. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 16, alors que Jésus vient d'apprendre que Jean-Baptiste a été décapité. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui se passe à l'intérieur de Jésus à ce moment-là. Je pense qu'il devait être énormément touché. Son cœur devait vraiment saigner d'apprendre une telle nouvelle. Bon, il ne l'a pas apprise, on est venu lui apprendre la nouvelle. Bon, Jésus, nous le savons, c'est toute chose. Mais combien ça a dû être difficile pour Jésus? Jean-Baptiste était un membre de sa famille. Jean-Baptiste était celui qui était venu préparer le chemin pour lui. Il y avait une grande affection de Jésus pour Jean-Baptiste. Et il apprend qu'il vient d'être décapité. Et à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. C'est ce qu'on a envie de faire hein, quand tout ne va pas. Se mettre à l'écart et on ne veut plus voir personne. Là, pour l'évangélisation, c'est mal barré. Hein. Sauf que ce temps, bien sûr, Dieu nous l'accorde. Il y a des moments où on a besoin de se retrouver tout seul. Mais ce temps ne va pas durer longtemps. Hein. La foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Et quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Et regardez ce qui ressort dans le cœur de Jésus. Il oublie sa tristesse, il oublie ses problèmes. Il est ému de compassion pour cette foule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir les malades. Et le soir, alors que ses disciples viennent, s'approchent et lui disent « Ce lieu est désert, à l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Amen. Amen. La compassion qu'il y a dans le cœur de Jésus l'amène à dépasser ses circonstances, ses problématiques. Il reprend immédiatement son ministère, sa mission. Rien ne pourra l'empêcher d'accomplir sa mission. Amen. Je vous rappelle d'ailleurs que quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est pour accompagner quoi ? La parole lui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Là, on peut compter que Jésus est avec nous quand on fait ça. Parfois, on veut que Jésus soit avec nous alors qu'on... Bon, bien sûr, Jésus est toujours avec nous. Hein. Dans sa grâce, il veille sur nous. Mais Jésus est avec nous si nous sommes dans la mission qu'il nous a confiée. Il ne nous envoie pas tout seul. C'est pour ça que toutes les craintes doivent tomber. Jésus est avec toi, mon frère, ma sœur. Pour cette mission qu'il t'a confiée, de propager la bonne nouvelle là où il t'a placé, toi, personnellement. On va lire ensemble une parabole qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Et on lit les versets 25 au verset 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, j'aime bien l'expression, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Jésus parle à un docteur de la loi. Et une interprétation possible et très probable de la parabole est que cette victime représente les perdus les victimes de ce chemin de la vie qui est escarpé, qui est difficile, où les assauts de l'ennemi font rage. Cette personne peut représenter les pécheurs qui se sont égarés sur le chemin et qui sont tombés entre les mains de l'ennemi. Et les chefs religieux juifs, comme ce docteur de la loi, ne s'intéressaient pas à ces personnes. Ils les méprisaient, ne se mêlaient pas avec elles. Alors que nous voyons que l'attitude de Jésus est tout à fait contraire. Jésus est tout le temps avec les pécheurs, ce qui lui vaudra des problèmes. Jésus dira dans Matthieu chapitre 9, versets 12 à 13, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Et à la fin de ce chapitre 9, vous savez ce qu'il est dit sur Jésus qui est ému de compassion devant les foules sans berger. Et ensuite, il dit « Priez ». Priez pourquoi ? Oh là là ! Priez pourquoi, les frères et sœurs ? Pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Oh là là ! Ça va, Sainte-Agne ? Amen. Gloire à Dieu. Oui, et les ouvriers dans la moisson, c'est quoi? Vous savez, pendant longtemps, moi, j'ai cru que c'était prier pour que le Seigneur élève des pasteurs. Il n'y a que les pasteurs qui font de l'évangélisation? Mais non, les ouvriers, c'est nous. Hein. Chacun de nous, nous sommes les ouvriers que le Seigneur veut utiliser pour la moisson. Amen. Eh oui. Cette parabole nous enseigne deux choses, au moins deux choses, on aurait pu en voir plus. La première, c'est prendre conscience qu'il y a des mourants autour de nous, des mourants sur le plan spirituel. Il y en a partout et qu'on doit prendre soin non pas de tout ce qu'il y a autour de nous, ça nous dépasserait, mais au moins de ce que Dieu met sur notre chemin. Moi, je suis pris de vertige quand je vais au supermarché ou quand je vais à un endroit. Il m'arrive, je sais, c'est pas bien, mais il m'arrive d'aller voir des matchs, soit le Toulouse Football Club ou le Stade Toulousain. C'est très rare, hein, mais j'aime bien de temps en temps. Souvent, c'est parce qu'on m'offre une place, donc j'y vais. Mais quand vous vous retrouvez là au milieu, moi, la première chose que j'ai dit, Seigneur Jésus, toutes ces personnes-là, amassées pour des futilités, Seigneur, qu'un jour, ces stades soient pleins pour toi. Mais je prie pour toutes les personnes qui sont là. Et je dis, Seigneur, sauve-les. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Un stade, c'est 30 000. Je vais passer dans tout le stade. Jésus t'aime. Non, ma mission, c'est de m'occuper des personnes que Dieu met sur mon chemin. Et ici, on est en plein dans cette image, dans cette parabole. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas d'évangélisation sans compassion. On a vu la compassion de Jésus, et on voit dans cette parabole que ce qui a conduit une des trois personnes à se pencher sur cette pauvre victime, c'est la compassion. Il n'y en a qu'un des trois qui avait la compassion, qui était ému de compassion. Et cette émotion de compassion, nous devons la demander au Seigneur. Parce que moi, le premier, je confesse que je peux côtoyer pendant un certain temps des non-croyants et que ça ne m'atteigne même pas. On est tellement habitués. On peut passer une journée avec des non-croyants et avoir même pas pensé à prier pour eux ou à dire, tiens, ils sont perdus. Seigneur, ouvre une porte un jour pour que je puisse leur parler. On a besoin du secours du Seigneur, on est humain. On est occupé dans nos têtes, on a nos préoccupations. Je ne culpabilise personne, je suis comme vous. Mais on a besoin de prier pour dire, Seigneur, ben, je suis comme ça par ma nature charnelle. Mais toi, par ton esprit, tu peux faire que je sois comme Jésus-Christ. Amen. Ému de compassion. Alléluia. Il n'y a pas d'évangélisation sans compassion, d'abord. D'abord, un amour puissant pour les perdus. Compassion. Qu'est-il arrivé à cette victime ? D'abord, il est dit qu'on lui a volé ses vêtements. Et en fait, j'y vois l'image du vol du vêtement de justice que Dieu veut donner à chaque homme, chaque femme sur cette terre. Nous sommes tous prédestinés à être enfants de Dieu. Il n'y a pas une personne sur terre qui naît, qui arrive au monde, sans être prédestinée par Dieu pour devenir son enfant. Et Dieu veut la revêtir d'un vêtement de justice, mais le diable vient et dérobe ce vêtement. Le prince de ce monde, dont il nous est parlé, et il est décrit comme un voleur par Jésus, qui dit « le voleur vient pour dérober », Jean chapitre 10, verset 10. Cet homme aussi est victime de coups et de blessures, qui l'ont presque amené jusqu'à la mort. Il y a des gens qui sont dans un état de quasi-mort spirituelle avec tous les coups et blessures qu'ils ont reçus dans la vie. Certaines personnes, vous avez du mal à leur parler du Seigneur. Ils disent, avec tout ce que j'ai vécu, vous m'expliquez qu'il y a un Dieu ? Et là, on se retrouve démunis. Surtout, ne sortez pas des phrases toutes faites dans ces cas-là. Mais qu'est-ce qui va nous aider ? La compassion. La compassion du Seigneur. Souvent, c'est plus le silence et pas vouloir raisonner à tout prix. Non, mais c'est pas parce que tu as vécu tout ça, Dieu, il existe quand même. Non, écoutons cette souffrance et laissons-nous guider par Dieu. Lui seul a les bonnes paroles à nous communiquer pour ces personnes. Il y a tellement de gens blessés autour de nous, mes frères et sœurs. Tellement de misère. Tellement de gens qui souffrent. Et notamment tellement de gens qui souffrent à l'intérieur de leur foyer. Avec des violences familiales, des difficultés relationnelles terribles, des couples qui se déchirent, des enfants qui sont maltraités. Tout ça, ça existe autour de nous. Et même à l'intérieur de l'Église. Et le Seigneur nous donne mission d'être auprès de ces personnes. Dans le même verset, Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit que le diable y vient pour égorger et pour détruire. Oui, nous devons nous occuper des gens que Dieu place sur notre route. Vous savez, les gens qui sont en grande souffrance, quand ils arrivent sur notre route, notre réflexe humain, c'est de... Non. On ne va pas s'attaquer à ça, sinon on n'a pas fini. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous avez déjà pris en charge des personnes en grande difficulté, vous savez l'investissement que ça demande. Et parfois pour peu de résultats. Et donc notre réflexe, c'est de dire « j'ai rien entendu, j'ai rien vu ». Ça, c'est le côté charnel. Mais si nous sommes des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas nous détourner. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et Dieu conduit vers nous des personnes parce que c'est au travers de nous qu'ils peuvent trouver la solution. La porte de sortie. L'évangélisation, c'est un engagement personnel. Un engagement que je prends devant Dieu. Seigneur, je veux être fidèle à l'appel que tu me confies. Va, sors, va vers les perdus. Le fonctionnement de nos églises ne sont pas adaptés, je trouve. Nous, on veut que les gens viennent à l'église. Mais nous devons aller vers les gens. Et c'est complètement différent. Et là, on dit, mais comment on va faire ? Occupe-toi des personnes que Dieu met sur ton chemin. Commence par là. Ne te détourne pas. Occupe-toi. Et même si, excusez-moi l'expression, tu dois mettre les mains dans le cambouis et des fois aller voir des situations qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien, tu dois aller quand même. Parce que Jésus est allé, vous savez, quand Jésus était à table, il parlait avec les publicains et les gens de mauvaise vie, des fois, il devait entendre des choses qui devaient... lui faire siffler les oreilles. Mais il était là. J'ai vécu ce genre de choses. J'ai côtoyé des gens qui avaient des mots grossiers, des attitudes qui étaient vraiment répugnantes devant Dieu. Et on est souvent tenté de dire « Oh, il ne faut plus que je fréquente ces personnes ». Mais je crois que ce n'est pas ça qu'on doit faire, mes frères et sœurs. Bien sûr, si vous venez de vous convertir et que vous aviez des problèmes avec certaines choses, n'allez pas recôtoyer ces choses-là. Soyons sages. Mais si nous sommes affermis en Christ, mes frères et sœurs, est-ce qu'on ne peut pas côtoyer le péché en restant pur et être capable, justement, d'être un témoin et d'amener les gens à respecter Dieu? Il m'est arrivé dans certains lieux où les choses étaient tellement grossières d'intervenir et de dire « Écoutez, s'il vous plaît, maintenant, vous avez le droit de dire tout ça, mais s'il vous plaît, ne le faites pas en ma présence. » Parce que moi, ça me choque. Et je ne peux pas accepter soit des vulgarités ou soit des manières de parler des gens. Et j'étais obligé de dire « Non, 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 non. » Mais vous savez que les gens, après, ils réagissent, hein. Et ils sont là, et ils commencent à partir, et puis il y en a un qui fait « Il y a Luc. » Mais on est des témoins quand on fait ça. Et les gens, vous savez, au début, ils rigolent, ils se moquent de nous, mais après, ils sont interpellés. D'abord parce que c'est une forme de courage, mais on n'a pas envie qu'ils soient interpellés par nous. Mais ils sont interpellés de voir qu'il y a encore des gens qui veulent avoir des valeurs, des repères. Ce qu'il n'y a plus beaucoup dans notre monde aujourd'hui. Évangéliser, c'est pas partir tête baissée et dire « Bon, le pasteur, il a dit qu'il faut qu'on évangélise, là, le premier que je vois dans la rue, là, je lui saute dessus. » C'est pas « Seigneur, amène des gens dans notre église. » Seigneur, conduis-moi dans mes journées. Je vous propose d'essayer une chose. C'est le matin de dire « Seigneur, aujourd'hui, mets quelqu'un sur ma route à qui je puisse parler de toi. » Ne passez pas un matin sans dire ça. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je vous assure, hein. Faites-le. Dites « Seigneur, je ne veux pas passer cette journée sans rencontrer quelqu'un à qui je puisse parler de toi. » Vous allez être étonné du résultat. Les exemples sont nombreux dans le Nouveau Testament où Jésus rencontre des gens sur son chemin. Et bien sûr, Jésus ne se détourne pas. Il ne se détourne pas devant Zachée. Il ne se détourne pas devant la femme samaritaine. Pierre et Jean ne se détournent pas devant le boiteux alors qu'ils vont à... Ça, c'est une image intéressante. Hein. Où est-ce qu'ils vont, Jean et Pierre, lorsqu'ils rencontrent le boiteux? Ils vont au temple pour faire quoi? Pour prier. Ah, ils auraient pu dire « Ah, il y a un besoin là, mais ah, il y a la réunion. » Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire. Hein. Mais si vous êtes en train d'aller à la réunion et que vous rencontrez un besoin sur la route, la priorité, c'est le besoin que le Seigneur met devant vous. Il faut savoir bouleverser ses programmes, même religieux, même pour faire passer priorité à... On le dit nous-mêmes, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, il n'y a pas de hasard. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de hasard. Donc si à un moment donné je vis une situation, c'est que Dieu l'a mis devant moi. Donc je peux me détourner ou je peux m'arrêter. Et dans tous ces exemples, on voit que personne ne s'est arrêté. Paul a pris soin du geôlier. Et j'arrête avec les exemples. Oui, c'est un engagement personnel de chacun d'entre nous qui est nécessaire. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 10, versets 13 à 15. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Prêcher, c'est « kérusso », qui signifie « partager la bonne nouvelle ». D'accord? Donc c'est tout le monde. On partage tous la bonne nouvelle. Et comme il y aurait des prédicateurs, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, et j'aimerais que ça parle à vos cœurs, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Vous avez des beaux pieds, mes frères et sœurs. Ah, il y a une grande nécessité, c'est qu'on s'oublie soi-même. Il y a cette nécessité de s'oublier soi-même. Et ça, c'est difficile. C'est difficile, on est tellement occupé, on a des emplois du temps tellement chargés, et parfois on est chargé avec l'Église. Tellement chargé qu'on n'a plus aucun contact avec les inconvertis. Et on doit veiller à trouver l'équilibre. Je ne dis pas qu'il faut délaisser l'Église, parce que vous savez, il y a les gens qui n'aiment pas trop qu'on les force à aller à l'Église. Donc s'ils m'écoutent ce matin, ils vont dire « Ah, le pasteur, il a dit qu'on n'est pas obligé de venir à l'Église. » Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, hein, du tout. On doit être investi dans son Église. Mais il faut trouver un équilibre. Et moi, j'ai vécu le déséquilibre, étant plus jeune, en étant hyper investi dans mon Église. Mais quand je fais le bilan, je ne me suis pas occupé de mes collègues de travail, de mes voisins qui habitaient juste à côté de chez moi. Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps pour eux. J'avais le temps que pour l'Église, pour les réunions, pour aller faire les activités, etc. Et comme je n'avais pas assez d'activités, j'en inventais d'autres. Nous devons faire uniquement ce que le Seigneur nous demande. Amen. Et ce que le Seigneur nous demande, en priorité, c'est de nous occuper des inconvertis. Il y a eu un grand débat, je ne sais pas si vous, les plus anciens l'ont vécu comme moi, hein, sur la suppression des réunions d'évangélisation. Ah, quel grand débat. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous avez le dimanche après-midi de libre, il peut y avoir des dizaines de réunions d'évangélisation, au lieu qu'il n'y en ait qu'une. Parce que si vous invitez chez vous votre voisin à manger, ou votre collègue de travail, ou un membre de votre famille qui n'est pas converti, je pense que vous serez beaucoup plus utile que de venir à une réunion encore une de plus à l'église. C'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est biblique, mais c'est ce que je pense avec l'expérience. Mais le problème, c'est que quand vous dites ça, que vous supprimez la réunion d'évangélisation, c'est que les gens, ils vont à la pêche, ils vont jouer au foot, ils regardent la télé, mais ils ne sont pas préoccupés par l'évangélisation. Parce qu'on a tellement appris aux gens que c'est l'Église qui s'occupe de l'évangélisation. Ce n'est pas l'Église qui s'occupe de l'évangélisation, c'est toi, mon frère, ma sœur. C'est toi. Moi, je vous invite le jour du Seigneur, le dimanche. Bien sûr, ce n'est plus une loi. On n'est plus sous la loi. Mais est-ce que parce qu'on n'est plus sous la loi, on ne doit pas se rappeler quand même que le Seigneur, il a dit, il y a un jour par semaine que tu vas consacrer à Dieu. Qu'est-ce que je fais de mon dimanche ? Où il n'y a plus qu'une réunion aujourd'hui. Je fais quoi le dimanche après-midi ? Je vous laisse réfléchir à cela. Deuxième point qu'on voit dans cette parabole, amener ses morts spirituelles vers celui qui peut leur donner la vie. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean 11, 25. Je reviens à la vallée des ossements desséchés. La fin n'est-elle pas extraordinaire, mes frères et sœurs ? Oh, quel enthousiasme ! La fin n'est-elle pas extraordinaire ? De ce champ où il y avait la mort, on voit renaître des vies et un peuple renaître. Amen ! Est-ce qu'on ne veut pas avoir cette vision pour notre pays de France, pour notre ville de Toulouse ? Vous n'avez pas envie d'avoir cette vision ? Ou on veut continuer à dire « Oh là là, en France, les gens, oh, la religion, Dieu... » On peut continuer à parler comme ça. Moi, je veux avoir la vision d'Ézéchiel. Et je veux prophétiser sur ce pays en disant qu'il va reprendre vie. Amen. Les remèdes qu'on doit donner aux gens, ils sont simples. On voit que cet homme, il donne de l'huile et du vin. L'huile représente le Saint-Esprit, vous le savez. Et en fait, ce que ces personnes ont besoin de connaître, c'est la présence de Jésus-Christ en eux, de faire une rencontre personnelle avec le Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en nous. D'abord, il faut qu'ils voient Jésus en nous. Et il y a un travail à faire dans la relation personnelle que nous établissons avec Jésus. Ce n'est pas dans le nombre de réunions où on vient à l'église qu'on change. C'est dans le nombre d'heures qu'on passe en tête à tête avec le Seigneur. C'est là que je change. En tous les cas, moi, ça m'a été mon expérience personnelle. J'ai vraiment changé quand j'ai pris du temps devant Dieu, tout seul. Et là, le Seigneur, il a commencé à opérer. Tant que je faisais que être occupé à venir à l'église, c'était bien. Bon, ça n'a pas été inutile. Mais ça n'opérait pas des changements en profondeur. Le vin représente le sang versé à la croix. Le message qu'on doit délivrer, c'est celui de la croix. Il est incontournable. La première prédication de l'église, c'est l'apôtre Pierre, devant la foule rassemblée pour la Pentecôte. Et de quoi il parle ? De celui qui a été crucifié. Celui que vous avez crucifié. Dieu l'a déclaré, Christ est Seigneur. Amen. Et nous voulons parler de celui qui est mort, de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous. Parlez de vous, parlez de votre expérience personnelle. J'étais perdu et Dieu m'a sauvé. Et aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens une autre personne. Dieu a opéré des changements extraordinaires en moi. Cette joie que je ne connaissais pas avant de le connaître, maintenant je la connais. Et même quand les difficultés sont là, cette joie, elle reste. Ça, c'est un témoignage extraordinaire. J'aimerais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas ce Jésus ce matin. Peut-être quelqu'un est venu aujourd'hui. Je t'invite vraiment à rencontrer Jésus, pas une religion, pas l'église évangélique de Sainte-Agne ou l'église de je ne sais pas quoi. L'important, c'est de rencontrer Jésus. Approche-toi. Si tu ne connais pas Jésus, tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Souvent, les gens me disent, « Pasteur, comment je dois prier ?» Je dis, « Ben, tu parles. » Tu parles à Dieu. Dis-lui ce que tu veux lui dire. Sois respectueux, bien sûr. Mais parle-lui. Confie-lui tes problèmes. Pose-lui tes questions. Et après, bien sûr, l'Église. C'est important aussi parce que tu vas pouvoir avoir des personnes sur qui t'appuyer, qui vont pouvoir t'aider à faire tes premiers pas dans la lecture de la parole, etc. L'Église, c'est important. Mais d'abord, centre-toi sur Jésus. Et puis, on voit aussi une troisième dimension, c'est l'aide matérielle. Le Samaritain, il ne dit pas, « Bon, allez, ça va aller, mon gars, je vais prier pour toi. » Non, il pourvoit aussi à ses besoins matériels. Il y a des fois aussi sur notre route, là aussi, hein, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Mais je veux m'adresser à tous ceux qui, au milieu de nous, ont une bonne situation financière. Et si nous sommes, si Dieu met sur notre route quelqu'un qui est dans le besoin financier, est-ce qu'on va juste lui dire « je vais prier pour toi » Mes frères et sœurs, c'est important aussi qu'on témoigne non pas seulement des choses spirituelles, mais aussi qu'on prenne soin des personnes. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Prenez soin d'eux aussi pour leurs besoins physiques. Je conclue ce message. L'ordre de Jésus au docteur de la loi, qui est enfermé dans sa religiosité, ses préjugés concernant les perdus, est clair et sans ambiguïté. Va et toi, fais de même. Donc c'est un docteur de la loi. Il lui dit de ne pas suivre l'exemple du sacrificateur, il lui dit de ne pas suivre l'exemple du lévite, il lui dit de suivre l'exemple du samaritain. Je ne sais pas si vous voyez l'ironie, là. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas le titre qu'on a. Je suis de telle église, je suis protestant évangélique, je suis catholique, je suis. Non. Est-ce qu'il y a la compassion, là ? La compassion du Seigneur Jésus qui est communiqué par le Saint-Esprit, qui est là dans mon cœur. C'est ça qui va déterminer ce qui va se passer, mes frères et sœurs. La question ce matin, elle est simple. Est-ce qu'on est des religieux qui passent sans s'arrêter, trop préoccupés à accomplir nos devoirs religieux ? Est-ce que nous sommes des légalistes au point de détourner le visage à chaque fois qu'on voit le péché ? Ici, dans l'image, une des possibilités, une des explications pour lesquelles le sacrificateur et les lévites seraient passés outre, c'est qu'ils auraient pensé que c'était un mort et que la loi interdisait de toucher les morts. Est-ce que nous avons interdiction de toucher le pécheur? Je ne crois pas. Est-ce que nous sommes timides, peureux? Alors le Seigneur veut nous libérer de cela, mes frères et sœurs. Je ne pose pas la question, sommes-nous indifférents? Je ne pense pas qu'on le soit. Nous ne pouvons pas être indifférents au fait que des gens à côté de nous sont perdus. Ils ne connaissent pas ce qu'on connaît, ce qu'on a la grande chance et le grand privilège de connaître, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, émus de compassion, obéissant au Seigneur pour imiter le bon Samaritain. Va et toi, fais de même. Alléluia. Ésaïe, lorsque il a entendu la voix du Seigneur, Ésaïe 6:8, il a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Est-ce que tu veux répondre cela à l'appel du Seigneur ce matin? Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous a rappelé que nous avons reçu une puissance, le Saint-Esprit. Et nous l'avons reçu pourquoi? Allô? Nous l'avons reçu pourquoi? Pour parler en langue, pour faire des miracles, pour faire des choses surnaturelles, pour être des témoins. Vous savez, le mot même en grec, c'est des martyrs. C'est ça que ça veut dire littéralement. Ouh là là, vous me faites peur, là, pasteur. Non, non. Les disciples ont répondu à cet appel. Pourquoi ils ont répondu à cet appel? Parce qu'il y a eu la Pentecôte. Il y a eu la Pentecôte entre cette parole et le moment où les disciples sont partis et ils ont tous fini mal, hein, en martyrs justement. Mais le courage qu'ils ont eu leur est venu du Saint-Esprit qu'ils ont reçu et qu'ils ont renouvelé, parce que lisez les Actes des Apôtres, il n'y a pas eu que la Pentecôte. Ils ont renouvelé cela. Ne vous appuyez pas sur votre baptême du Saint-Esprit qui date du siècle dernier. Mais demandez au Seigneur de vous renouveler en permanence de son esprit, parce que la chair reprend tout le temps le dessus. Mais si nous sommes renouvelés régulièrement, alors la chair est vaincue. Amen. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour être des témoins. Et j'aimerais vous encourager à l'être ici dans l'église de Sainte-Agne. Et de l'être non pas en tant qu'église seulement, bien sûr que l'église peut organiser des choses pour l'évangélisation, mais d'abord chacun individuellement pour sa part. On va baisser nos têtes, on va prier si vous voulez bien. Je voudrais vous interpeller dans ce moment de la part du Seigneur. C'est un moment sérieux. Vous savez, il y a tellement, on entend tellement de prédications. Tellement de prédications. Et je le confesse pour ma part. Combien de prédications j'ai entendues, que j'ai approuvées et qui ont été sans aucun effet dans ma vie. Et je prie vraiment de tout mon cœur maintenant. Je veux prier pour vous, mes frères et sœurs. Je ne vais pas faire un appel, je ne vais pas vous demander de vous lever. C'est à chacun de vous de vous placer devant le Seigneur maintenant. Mais je sais qu'une grande majorité d'entre vous, ici, là, vous êtes interpellés par ce message ce matin. Et je veux prier pour vous, afin que le Seigneur vous donne la force de faire ce que vous devez faire maintenant. Pour que ça change. Si déjà tu es tourné vers les inconvertis, que tu fais, tu ne passes pas ton chemin, c'est très bien. Que Dieu te bénisse et continue. Mais si tu t'es senti interpellé, alors place-toi devant Dieu. Vous savez, Dieu ne s'amuse pas à nous humilier ou nous montrer du doigt. Il veut juste nous interpeller, nous encourager. Et il nous dit, je suis avec vous dans cette mission. Je suis avec vous, je ne faillirai jamais. Tu pourras toujours compter sur moi. Rien ne te manquera dans cette mission, mon frère, ma sœur. Parce que Jésus est avec toi. Jésus te remplit de son esprit. Jésus remplit ta bouche quand tu dois parler. Et Jésus te transforme et te change pour que tu sois un témoin même sans parler. Jésus est avec toi. Sois courageux, mon frère, ma sœur. Lève-toi pour le servir. Comme Ésaïe l'a dit, me voici. Envoie-moi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie pour mes frères et sœurs réunis ici. Je te prie pour tous les chrétiens de ce pays, pour nous tous. Nous avons tous besoin de nous réveiller, de réagir. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on est passé outre. Pardon, Seigneur, nous nous humilions devant toi pour être passé outre tellement de fois. Seigneur, relève-nous. Relève-nous maintenant dans cette mission que tu nous as confiée. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de cette compassion. Chasse toute peur, toute crainte, toute indifférence. Et Seigneur, fais de nous des témoins puissants par le Saint-Esprit que tu envoies maintenant. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen.